VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Mali, un accrochage le 21 avril entre des soldats français de la force Barkhane et des membres d'un groupe armé djihadiste dans la région de Tombouctou dans le nord-ouest du pays a conduit à la neutralisation de 3 terroristes, a indiqué ce jeudi à Paris un porte-parole de l'état-major de l'armée française. Selon le colonel Guillaume Thomas, cet affrontement a mené à l'utilisation d'hélicoptères Gazelle français basés dans la région. Et toujours au Mali, le président du parti Parena, Thiébilé Dramé, a dénoncé dans une conférence de presse ce qu'il a appelé les malversations financières liées à l'achat de pick-up et d'avions militaires pour les FAMA, l'armée nationale malienne. L'ancien ministre Dramé a attiré aussi l'attention sur le fait que des hélicoptères sont cloués au sol malgré l'achat de pièces de rechange. Plus de détails avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Ces 42 pick-up qui ont été facturés à l'État malien à 2,3 milliards. C'est la date du mois de mai 2016. Parce que 42 pick-up à 2,3 milliards, ça fait l'unité de pick-up à 54 millions. Tout un chacun sait qu'on peut trouver à Bamako un pick-up à 14 à 15 millions. C'est choquant. Ça fait beaucoup de véhicules en moins pour nos FAMA. D'abord, les hélicoptères ne volent pas. Donc ça veut dire qu'on a acheté de vieux appareils. Même le Premier ministre, vous avez vu, quand il a quitté Kidal pour venir au centre, à Gao, au centre, il a voyagé à bord d'un hélicoptère des Nations. Ça veut dire que l'armée malienne est censée avoir des hélicoptères de transport. C'est aussi ahurissant que cela, qu'un avion entier soit payé en espèces. Que les ressources qui sont destinées à nos FAMA ne sont pas utilisées à bon escient. Et c'est peut-être le plus grand scandale de l'ère Ibeka.
Le président du parti Parena, Thiébilé Dramé, au micro de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako. Au Burkina, face aux voisins, 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées dans le nord frontalier du Mali. Cette attaque a eu lieu mardi soir, Yacouba Ouédraogo.
Alors que les fidèles musulmans revenaient de la mosquée, après la prière du crépuscule, des individus armés ont ouvert le feu sur un groupe, tuant 3 personnes, dont le chef du village de Niafo, son fils et un membre du groupe autodéfense Korolwe Ugo. Une autre personne a été blessée. D'après une source sécuritaire, des éléments du groupement antiterroriste ont aussitôt entrepris un ratissage dans la commune de Arbinda afin de retrouver les assaillants. Jusque-là, aucune arrestation n'a été signalée. Mardi, le tribunal de Djibo dans le nord a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Fin février, une vingtaine de policiers du commissariat de Déhou, toujours près de la frontière avec le Mali, avaient abandonné leur poste pendant 24 heures pour protester contre le manque d'équipement. Peu après leur départ, des enseignants ont abandonné leur poste, entraînant la fermeture de nombreuses écoles. Depuis 2015, selon un bilan officiel, près de 80 attaques attribuées aux djihadistes ont fait au moins 133 morts.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, la nouvelle force militaire anti-djihadiste du G5 Sahel a besoin des fonds promis pour commencer réellement ses opérations. C'est ce qu'a affirmé mercredi l'ambassadeur du Niger à l'ONU, Abdallah Wafi, dont le pays préside actuellement cette nouvelle unité composée de militaires du Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et Mauritanie. Lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion à l'ONU, l'ambassadeur nigérien a averti que la situation sécuritaire au Sahel ne fait que se dégrader, d'où la nécessité pour la force de commencer ses opérations militaires, a-t-il ajouté. Abdallah Wafi a dit espérer un déblocage de fonds dans les jours ou semaines à venir. Au Nigeria, le Parlement fédéral a convoqué le président Muhammadu Buhari pour qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays, où les affrontements entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades font de nombreuses victimes. Les membres de la Chambre basse du Parlement, la Chambre des représentants, ont voté mercredi en faveur de la convocation du président Buhari ainsi que pour le remplacement des chefs de service et conseillers en sécurité de l'armée, selon le président de la Chambre, Yakubu Dogara. Le député Dogara a souligné dans un tweet que le président Buhari, commandant-chef des forces armées, doit répondre aux questions pertinentes sur ce que l'exécutif fait pour mettre un terme à la série de meurtres dans différents états de la Fédération du Nigeria. Et toujours concernant les violences dans le centre du Nigeria, des jeunes en colère ont tué 11 musulmans à Oussa, à Makurdi, la capitale de l'état de Benoué, dans cette région du pays. C'est en représailles à l'attaque d'une église mardi qui a fait 18 morts. Eric Manirakiza.
D'après le conseiller aux affaires islamiques du gouvernorat d'Obenu, les attaques ont eu lieu dans différents quartiers de la ville. Les auteurs ont rasé les deux mosquées de Makourdi après avoir tué un vendeur de poulet du marché. Un cordonnier a été attaché derrière une moto et traîné par terre jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains corps ont été calcinés et n'ont pas encore été retrouvés. 5 personnes blessées ont été hospitalisées. Avant-hier, mardi, 2 prêtres catholiques et 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs musulmans pendant une messe de funérailles en Balom. Des centaines de jeunes en colère sont alors descendus dans les rues pour protester et se sont pris à la minorité musulmane, en majorité des commerçants à Oussa, et qui n'ont aucun lien avec le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui secoue la région.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Agitation en zone anglophone du Cameroun. Un militaire et un enseignant ont été tués mercredi lors de 2 attaques séparées dans la région anglophone. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Un militaire d'une 20aine d'années a été abattu à Andek dans le nord-ouest par un groupe armé non identifié. Selon l'armée, un autre soldat a été blessé. L'attaque a eu lieu autour de minuit et les victimes ont été atteintes par balles. Quelques heures avant, le militaire avait confié à un de ses collègues que lui et ses camarades déployés dans le cadre de la guerre contre les séparatistes anglophones recevaient des menaces depuis une semaine. À combat dans le sud-ouest, la deuxième région anglophone, un enseignant de lycée a été abattu dans son établissement par des hommes en cagoule. Un élève a été blessé lors de l'assaut d'après la radio d'État qui a attribué la responsabilité de l'attaque à un groupe séparatiste dont le but était d'empêcher la tenue des cours. Des combats ont été signalés dans la même ville, mais aucun bilan n'est encore disponible.
En Tanzanie, les blogueurs et autres animateurs de plateformes en ligne ont 2 semaines pour se faire enregistrer auprès du gouvernement. Ceux qui seront pris à défaut devront payer une amende ou aller en prison. Un reportage de Mohamed Youssouf du bureau de la VOA à Nairobi au Kenya, rendu par Idriss Fall.
La nouvelle loi tanzanienne cible les plateformes en ligne, les blogs, podcasts et vidéos postées sur YouTube et d'autres sites Internet. Le gouvernement dit qu'il va surveiller ces plateformes pour des discours de haine, des contenus obscènes, des menaces à la sécurité nationale ou des risques de troubles à l'ordre public. Maxence Mello est cofondateur du forum Jami, un site web qui dénonce la corruption en Tanzanie. Il a déjà été arrêté plusieurs fois en 2015.
Nous avons subi beaucoup de pression ces dernières années parce que les autorités veulent connaître qui sont nos lanceurs d'alerte et nous disons que c'est impossible.
Le porte-parole du gouvernement tanzanien s'est refusé à tout commentaire. Vendredi dernier, l'autorité de régulation de la communication a décidé que tout gérant de site Internet doit payer $900 pour obtenir une licence. L'agence nationale menace de suspendre ou d'enlever de force tout contenu jugé être en violation de la loi. Les contrevenants écoperont d'une amende et risquent jusqu'à 1 an de prison. Reporters sans frontières a dénoncé les frais d'acquisition d'une licence comme exorbitants et qualifié la nouvelle loi de dernier coup contre la liberté d'expression en Tanzanie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli s'est dressé quelques priorités comme la lutte contre la corruption, l'absentéisme chez les fonctionnaires, mais il est resté inflexible face à toute critique de l'action gouvernementale. Des journaux ont été fermés ou suspendus. En février, 2 opposants ont été jetés en prison après avoir été accusés d'avoir insulté le chef de l'État. Henry Maina, de l'ONG Article 19, appelle à la retenue.
Il y a un grand débat sur comment réguler les réseaux sociaux, mais réguler ne signifie pas criminaliser les réseaux sociaux.
En Tanzanie, les blogueurs et administrateurs de sites Internet ont jusqu'au 5 mai pour se faire enregistrer et leur licence doit être renouvelée tous les 3 ans. Des activistes tanzaniens vivant à l'étranger ont lancé un appel à manifester ce jeudi contre le régime. Le gouvernement leur répond que tout manifestant subira de graves conséquences. Le commandement régional de la police à Arusha a déjà annoncé 7 arrestations, essentiellement des étudiants, accusés de propager sur les réseaux sociaux des appels à manifester demain, date d'anniversaire de l'union entre la Tanzanie continentale et l'archipel de Zanzibar.
Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute, la Guinée coopère à l'enquête en France contre l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, inculpé mercredi soir pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Merci de votre attention.